Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, qu'attendre de ce nouveau venu sur la scène politique hongroise face au Premier ministre Viktor Orban au pouvoir depuis presque 14 ans? Péter Madiar entend faire bouger les lignes et il a créé un nouveau parti, Debout les Hongrois. C'est un homme du sérail, mais il dénonce aujourd'hui la corruption, un scandale pédocriminel couvert par les autorités et tous les dysfonctionnements du pays, de la santé à l'éducation. Déjà 13% des électeurs disent le soutenir, mais la route est longue. C'est le reportage à Budapest de Florence Labruyère.
Pour la première fois, un membre de l'élite au pouvoir défie Viktor Orban. Péter Madiar, ancien haut fonctionnaire et diplomate, a passé la dernière décennie à servir le parti du Premier ministre. Mais aujourd'hui, ce quadragénaire a perdu toutes ses illusions. Il tire à boulets rouges sur le régime. Lors de la fête nationale, il y a 2 semaines, des milliers de Hongrois l'ont applaudi sur l'avenue Andrassy, les Champs-Élysées de Budapest.
La première décision que doit prendre un nouveau gouvernement, c'est d'adhérer au parquet anticorruption européen.
Si le gouvernement Orban ne veut pas adhérer à ce parquet, c'est parce qu'il a volé l'argent de Bruxelles, accuse Péter Madiar. Où va cet argent? Dans les poches des oligarques et dans la propagande orchestrée par le ministre de la Communication, Antal Rogan. L'argent pourrait clairement être mieux utilisé.
Comment un nouveau gouvernement pourrait-il financer les hôpitaux? Eh bien, ces milliards mis dans la propagande, ils iront dans les caisses de la santé.
Péter Madiar qualifie ouvertement le parti au pouvoir de mafia. Un discours qui séduit Jolt, fabricant de bijoux.
Ce régime qui règne depuis 13 ans sur le pays, ce n'est pas un régime, c'est du féodalisme. C'est une bande de fascistes qui nous gouvernent. Et que dire de leur propagande? Le ministre Antal Rogan pourrait donner des leçons à Goebbels. Ça ne peut plus continuer. Moi, j'espère que ce pays va enfin se réveiller. Parce que ce qui se passe ici, c'est vraiment une catastrophe.
Pour Cataline, la femme du bijoutier, Péter Madiar est quelqu'un de rassembleur.
La société hongroise est très divisée. Il sera peut-être capable de réunir les gens, de réconcilier ces deux camps qui se considèrent comme des ennemis.
Lili Pankotai est une lycéenne militante. Elle a participé à de nombreuses manifestations contre le pouvoir. Elle est convaincue par la franchise de Péter Madiar. Pour elle, il est l'homme du changement.
Il est différent des autres. Il dit qu'il ne veut pas être le Premier ministre. Mais ce n'est pas ça la question. Ce qui est important, c'est ce que veulent les gens. Moi, je crois qu'il est le premier domino, celui qui peut faire tomber tous les autres et changer le jeu.
Pour l'instant, Péter Madiar attire surtout des électeurs de l'opposition. Le nouveau mouvement qu'il a l'intention de fonder risque de fragmenter encore un peu plus cette opposition déjà très divisée. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le parti au pouvoir, estime Agoston Braz, un expert proche du gouvernement.
D'un côté, il y a les électeurs qui sont pour M. Orban, et de l'autre, ceux qui ne l'aiment pas, voire qui le détestent. M. Bagar est tellement critique vis-à-vis du gouvernement qu'il se place automatiquement dans le camp de l'opposition. Il a clairement un discours de gauche. À mon avis, il ne pourra pas séduire des électeurs du Fidesz.
Selon cet analyste, on ne peut pas être à la fois un conservateur de droite et un critique de Viktor Orban. Conclusion, Péter Madiar est un traître.
Judas était un type intéressant, vous savez. Il était dans l'équipe de Jésus et il est devenu un traître. Monsieur Magyar était vraiment au top de l'élite du Fidesz. Il était marié à une ministre. Après 14 années très confortables dans le camp du pouvoir, il critique tellement le mode de pensée du Fidesz qu'il n'y a pas de doute, c'est un traître.
Il y a quelques jours, Péter Madiar a révélé un enregistrement d'une conversation avec son ex-épouse, l'ancienne ministre de la Justice. Dans l'enregistrement, celle-ci admet que le ministre de la Communication a fait falsifier des dossiers du procureur dans une grave affaire de corruption. Après la publication de l'enregistrement, l'ancienne ministre a réagi en accusant son ex-mari de violence domestique et de l'avoir terrorisé et obligé à faire ses révélations. L'affaire tourne au feuilleton. En tout cas, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté pour soutenir Peter Madiar. Lily, la lycéenne, était dans la rue. Elle ne croit pas que Peter Madiar ait été violent envers sa femme. Pour elle, il s'agit d'une campagne de diffamation menée par le pouvoir.
C'est courant de voir des politiciens diffamés, accusés d'être homosexuels, de fréquenter des prostituées. Peter Madiar n'est pas le premier à être traîné dans la boue.
Tous les jours, les nombreux médias pro-Orban accusent Peter Madiar de violence domestique. Face à cette offensive médiatique, l'homme qui défie Viktor Orban appelle à nouveau les Hongrois à descendre dans la rue le 6 avril prochain.
À noter que pour le 9 juin prochain, date à laquelle se tiendront les élections européennes et municipales en Hongrie, le parti Debout les Hongrois ne pourra pas se présenter car il n'a pas pu s'enregistrer à temps. Mais on peut imaginer que l'opposant rejoigne la liste d'un autre parti en lice pour ces scrutins. En Russie, 3 personnes arrêtées au Daghestan accusées de préparer de nouveaux attentats. Elles seraient aussi liées à l'attaque du City Crocus Hall près de Moscou qui a fait 144 morts. L'organisation terroriste État islamique au Khorassan visait la Russie, mais cette attaque rebat aussi les cartes dans le reste de l'Europe. Franceline Beretti.
La menace terroriste est de retour sur le continent européen. La donne a changé et pas seulement depuis l'attentat de l'État islamique au Khorassan, mais aussi avec la guerre à Gaza. Après l'énorme bouleversement qu'a représenté l'invasion de l'Ukraine, les Européens vivent donc en ce moment une sorte de retour à quelques années en arrière. Le podcast britannique This is Politics raconte ainsi son entretien avec les services secrets.
Ces agences de renseignement ont changé leur façon de travailler après le 11 septembre 2001. Elles se sont concentrées davantage sur le contre-terrorisme. Puis, dans une certaine mesure, elles ont fait marche arrière pour revenir sur la Russie, l'Ukraine. Je crains que nous ne soyons de retour dans un monde où il va falloir mettre plus de ressources dans le contre-terrorisme.
L'ombre du terrorisme n'a jamais disparu, mais ce sont les niveaux d'alerte qui changent. En France, l'attaque du City Crocus Hall a eu des conséquences immédiates, avec des menaces d'attaques terroristes sur les espaces numériques de travail des élèves dans les écoles, les ENT. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, disait jeudi avoir recensé plus de 320 menaces en une semaine.
Nous allons suspendre la messagerie dans les ENT pendant quelques temps, jusqu'aux vacances de printemps sans doute.
En Autriche, les autorités n'ont pas changé leur niveau de vigilance, mais l'ambiance n'est pas non plus à la détente dans le discours du ministre de l'Intérieur, Gerhard Karner.
À ce jour, il n'existe pas de menace précise pour l'Autriche, mais plutôt un risque accru et latent.
En Italie, des mesures renforcées sont mises en place pour Pâques. C'est le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, qui l'annonce.
Nous avons renforcé les mesures de protection, de vigilance, de prévention, déjà très élevées depuis le 7 octobre, quand la scène internationale est devenue en quelque sorte compliquée.
Le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas en Israël, qui a fait au moins 1200 morts, elle a eu pour conséquence l'intervention de l'armée israélienne à Gaza, qui, elle, a fait au moins 32 000 morts. Ce contexte compliqué, comme le dit avec euphémisme le ministre italien, inquiétait déjà beaucoup de pays en Europe. Le Danemark avait annoncé l'arrestation de 3 personnes mi-décembre dans le cadre d'un projet d'attentat. Écoutez la première ministre, Mette Frederiksen.
Il est tout à fait exact que les services de renseignement extérieur et le service de sécurité intérieure ont décrété qu'il existe un risque élevé au Danemark. C'est très, très sérieux. Et bien sûr, concernant Israël et Gaza, il est inacceptable que quelqu'un introduise un conflit extérieur dans la société danoise.
Quelques semaines plus tard, les liens avec le Hamas étaient confirmés par un procureur. La Suède, elle, n'a pas attendu le 7 octobre pour relever son niveau d'alerte. Elle l'a déjà fait au mois d'août.
La Suède relève d'élevé à critique son niveau d'alerte terroriste. Les autodafés du Coran ont aggravé la menace d'attentat dans le pays. Fin juillet, deux personnes avaient mis le feu à un exemplaire du livre sacré de l'islam devant le Parlement.
L'arrivée de l'État islamique au Khorassan, la branche afghane de l'organisation terroriste, vient encore ajouter plus de menaces à une menace déjà très élevée. Les observateurs attentifs noteront qu'elle avait déjà fait parler d'elle, cette organisation, en décembre.
Un groupe de ressortissants tadjiks est soupçonné d'avoir planifié des attentats contre les cathédrales de Cologne et de Vienne en Autriche. Il serait membre de la branche afghane de l'organisation terroriste État islamique.
Elle est aussi mise en cause dans l'attentat déjoué du marché de Noël de Strasbourg. Selon Europol, l'Agence européenne pour la coopération des services répressifs, plus de 1450 attentats ont été perpétrés ou déjoués dans l'Union européenne entre 2010 et 2021. Tous ne sont pas liés au djihadisme, mais ce terrorisme est le plus mortel. De 2010 à 2020, il a fait environ 600 morts en Europe, Russie comprise.
Il y a trois mois, le pape François publiait le texte Fiducia Supplicans, autorisant la bénédiction non liturgique des couples homosexuels, une initiative venue du Vatican et reçue avec beaucoup de perplexité en Europe et ailleurs. Les explications de notre correspondante Cécile Debarge.
On pourrait penser que près de 100 jours après la publication du texte, les polémiques se sont calmées. Il n'en est rien. La publication le 18 décembre 2023 du document Fiducia Supplicans, littéralement la confiance suppliante, a créé de profondes divisions au sein de l'Église. Il y a d'abord ceux qui acceptent la bénédiction des personnes qui forment le couple, mais pas du couple lui-même. C'est ce qu'a annoncé par exemple un groupe de 9 évêques de l'ouest de la France. Ensuite, il y a ceux plus ambigus qui préfèrent ne pas trancher, comme la Conférence des évêques de France. Et puis dans les faits, il y a pour le moment très peu de demandes de bénédiction de la part de couples homosexuels depuis la publication du texte. En Italie, le président de la conférence épiscopale a souhaité souligner que la bénédiction des couples gays n'est pas une bénédiction de la relation. Certaines réactions ont été nettement plus violentes, comme celle de Carlo Maria Vigano, habitué aux prises de position choc. Il a accusé le pape d'être le serviteur du diable. Enfin, il y a ceux qui refusent tout simplement d'appliquer le texte, en Afrique par exemple. Début juillet, le cardinal Ambongo, le président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, avait mis en avant les spécificités culturelles du continent. Il justifiait ainsi l'inapplicabilité du texte du document concernant les couples homosexuels. Jusqu'à présent, le souverain pontife a fait savoir dans ses différentes prises de parole qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur le texte. La valeur fondamentale du document est celle de l'accueil, a-t-il répété, et la bénédiction de l'Église est à accorder à tout le monde. Une position qui serait à l'origine d'un profond désaccord avec l'Église copte orthodoxe. Le 7 mars, elle a annoncé suspendre le dialogue théologique avec Rome. Cette annonce est un revers important après près de 20 ans à tenter de renforcer le dialogue entre les deux Églises.
L'Église orthodoxe en Serbie lance de son côté une campagne bien différente. Un des plus importants prélats du pays a d'ailleurs écrit au gouvernement pour fustiger l'éducation nationale qui, selon lui, fait l'apologie de l'homosexualité et de l'idéologie transgenre. Les explications de Simon Rico.
Officiellement, la Serbie est un État laïque avec une séparation claire de l'Église et de l'État. Mais depuis la chute du régime socialiste yougoslave au début des années 1990, le clergé orthodoxe se fait de plus en plus influent avec un retour en force de la religion. Si l'Église serbe a d'abord cultivé son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, on assiste ces dernières années à un rapprochement assumé avec le régime nationaliste conservateur du président Aleksandar Vučić. Alors quand l'un des plus importants évêques orthodoxes de Serbie prend la plume pour critiquer l'éducation nationale, cela ne manque pas de faire couler beaucoup d'encre. Irinej de Bačka s'est plaint auprès du ministère de l'éducation nationale que la religion soit délaissée par l'école publique et il s'inquiète de voir qui sont enseignées, je cite, les valeurs « décalage ». décadente et même perverse de l'Occident. Dans son viseur, les questions d'homosexualité et de transidentité contre lesquelles l'Église orthodoxe serbe ne cesse de se dresser depuis de longues années. À la rentrée 2022, ses représentants avaient ainsi défilé en tête des grandes manifestations organisées contre la tenue de l'Europride à Belgrade. Cette missive n'a toutefois guère fait réagir le gouvernement. Quelques voix, rares, se sont étonnées d'un tel silence en rappelant que l'homophobie est un crime en Serbie et que la loi bannit théoriquement la discrimination sur des critères d'orientation sexuelle à l'école comme ailleurs. Voilà en tout cas qui montre, comme en Grèce lors de la récente adoption du mariage homosexuel, que l'Église orthodoxe se pose encore bien souvent en porte-parole des courants les plus conservateurs dans les pays où elle est dominante.
Et à l'autre extrémité de l'Europe, la Suède, l'Église luthérienne s'est prononcée dès 2009 en faveur du mariage des personnes de même sexe. C'est d'ailleurs une femme homosexuelle qui a été l'évêque de la capitale Stockholm jusqu'en 2019. Eva Brun raconte que ces changements ne se sont pas faits en un jour. Notre correspondante Carlotta Morteo l'a rencontrée.
Il y a eu des discussions, des études et toutes sortes de choses. Ceux qui sont hostiles au mariage des personnes de même sexe continuent aujourd'hui de dire que la nouvelle leur est tombée dessus, qu'ils n'étaient pas prêts. Mais à mon avis, il est important de rappeler que le sujet est discuté au sein de l'Église suédoise depuis 1974, jusqu'à ce que nous prenions une décision favorable en 2009. Dans un premier temps, notre Église a été autorisée à enregistrer les mariages des couples de même sexe, mais ce n'était pas un mariage. Ensuite, il y a eu des discussions et encore d'autres discussions, et finalement, la décision a été prise par notre synode et avec une forte majorité.
La discussion a dû avoir des fondements théologiques. Quels ont été les arguments avancés ?
Ceux qui sont contre se prévalent de certains passages de la Bible, mais je ne peux pas imaginer que ces passages concernent des gens qui vivent de nos jours et qui s'aiment. C'est autre chose dont parle la Bible. Et à l'inverse, ceux qui sont pour font prévaloir le fait que d'un point de vue théologique, nous sommes tous les créatures de Dieu, qui nous a fait à son image et que Dieu nous aime tous. Pour moi, c'est un argument à la fois très simple et très important dans la discussion. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'est qu'à 50% à l'image de Dieu.
Pourquoi pensez-vous que l'argument selon lequel Dieu est présent dans tous les humains l'a finalement remporté ?
Peut-être qu'il existe des sociétés plus ouvertes que la société suédoise, mais c'est tout de même une société très ouverte et très démocratique. De même que l'Église luthérienne de Suède, qui est ouverte et démocratique, elle aussi. Notre synode, qui a pris la décision, est élue par les millions de membres de l'Église. Ni les prêtres, ni les évêques qui siègent dans le synode ne forment la majorité. Mais ça a beaucoup changé. Quand j'étais jeune, c'était une église plutôt ennuyeuse. On restait assis, on écoutait. Alors que maintenant, les fidèles participent et ont des choses à faire durant l'office. Nous les traitons comme des adultes. Même les enfants participent.
Vous défendez les droits des personnes LGBTQ dans l'église et d'une manière plus générale dans la société. Je me demandais quel regard vous portiez sur les mouvements traditionalistes.
Nous traversons des temps difficiles, à mon avis. On voit des partis populistes gagner de plus en plus de membres et de plus en plus de votes. Et nous devons nous rappeler que cela ne fait qu'une centaine d'années que les femmes ont obtenu le droit de vote, par exemple. Et cette tendance peut s'inverser, donc nous devons rester vigilants. Autant cela peut prendre du temps de construire des sociétés démocratiques, autant les choses peuvent empirer très rapidement.
Donc vous êtes un peu inquiète ?
Oui, je suis un peu inquiète.
L'ancienne évêque de Stockholm, Eva Brun, au micro de Carlotta Morteo. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur l'application Pure Radio. À bientôt.